le premier palier était diminué un peu. Je pense que pour ces mesures-là, un petit peu plus... Il ne faut pas minimiser non plus le coût total que ça peut représenter encore là sur 9 millions d'habitants. Je crois que ces mesures-là, ça va être débattu en campagne électorale entre les partis, là, parce que bon, ça va être un budget qui a quand même une courte durée de vie et qui va servir là, un peu de voie à suivre là, pour le parti, pour sa plateforme à l'automne. Mais en soi, oui, ben, je vais pas me commettre aujourd'hui, mais je veux juste mettre de l'avant que c'est pas un travail facile, puis bon, l'éducation, la santé, bon, c'est des postes qui continuent de prendre en importance, donc puis après, bon, mêler ça avec les objectifs d'atteindre un équilibre budgétaire en temps de guerre commerciale,
ça complexifie encore plus les choses.
Ouais. Bon, stagnation, peut-être décroissance, selon les projections de certains démographes. C'est pas facile.
On l'entend dans votre discours comme quoi c'est tout un exercice que Éric Girard, ministre des Finances, a à faire et a à déposer le 18 mars prochain. Merci beaucoup, Sonny Scafoni, économiste principal chez Desjardins.
Merci, bon week-end.
Merci, bon week-end. On sent vraiment à quel point on est dans une période financière économique difficile. Tu sais, il dit, j'ai de la misère à me prononcer parce qu'après, ça me demande de faire un choix puis de mettre en priorité certains éléments, certains enjeux, puis je peux pas faire ça. T'sais, on l'entendait, là. Ben, mais clairement, c'est criant au niveau des clients qu'il a, qu'on est dans une passe difficile.
Puis c'est dans ces discours-là, de la part des économistes, parce que peu importe l'économiste, on entend qu'on veut pas trop, ouais, justement, se positionner. Puis c'est à partir de là qu'on voit à quel point le gouvernement actuel va devoir faire des choix, des, ouais, choix importants pour
critiqués.
Le futur du Québec.
Ils vont être critiqués.
Peu importe le choix. On dit souvent lorsqu'un budget est déposé, mais peu importe les choix que tu vas prendre, personne ne va être content.
Oui, puis surtout avec le fait qu'il y a encore tout ce qui est spectre de la CAQ là, au-dessus quand même de M. Girard, ça n'aidera pas pour la suite des choses.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Nouvelle fort importante depuis lundi, depuis dimanche, depuis en fin de semaine passée, c'est tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Hein. On jasait de ça avant que ça éclate parce qu'on sentait qu'il y avait des tensions qui étaient très difficiles. Mais là, capitulation ou rien, c'est ce qu'a demandé Donald Trump dans sa dernière prise de parole du côté des États-Unis. Il écarte toute négociation avec l'Iran.
Oui, exactement. Puis c'est pas exagéré comme mot, là. C'est mot pour mot ce qui a été dit dans son Truth Social. Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran. Seulement une capitulation sans condition. On dit par la suite qu'avec plusieurs dirigeants alliés, on va mettre un gouvernement différent en place pour justement faire remonter l'économie de l'Iran.
Mm-hmm. Puis pour parler du conflit, on a notre fier Éric Ouellet. Je dis ça parce que c'est un expert. Hein? Il est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Il nous accompagne depuis plusieurs semaines maintenant à On en jase. Bonjour, M. Ouellet.
Bonjour.
On parlait justement de ces mots quand même importants que Donald Trump a choisi de mettre dans son dernier discours, la capitulation ou rien. Du haut de mes petits 30 ans, 31 ans, j'ai pas souvenir que quelqu'un en Occident ait parlé de cette manière-là. Trouvez-vous qu'on est allé trop loin du côté de Donald Trump?
Ben écoutez, M. Trump aime bien les grands discours dramatiques, là, mais je pense que ce qu'il essaie de dire, c'est qu'ils vont pousser jusqu'au bout pour aller à un changement de régime. C'est vraiment leur objectif. C'est aussi l'objectif d'Israël. La question, est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Ça, c'est moins clair, mais je pense que c'était des mots différents pour dire la même chose.
Mais est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Ça aussi, c'est une question importante, parce que l'Iran ne va pas plier non plus. C'est pas les dirigeants actuels de ce pays-là. C'est pas des doux. C'est une façon dont je veux l'évoquer. C'est des gens qui ont un ego aussi, qui veulent aller au bout des choses et qui, pour eux, sont menés par une idéologie qui ne va pas les faire plier. Est-ce qu'on s'embarque encore plus dans quelque chose qui risque d'être violent et difficile?
Oui, ben en fait, je pense que vous avez parfaitement raison en disant que le régime, les durs de durs, vont certainement tout faire pour rester au pouvoir. Ben, le premier indice va être qui vont choisir comme guide suprême. Ça va vraiment être un bon indice pour savoir si c'est la faction dure ou la faction plus pragmatique qui va prendre le pouvoir. Donc ça, c'est un des éléments. Deuxième élément, c'est que c'est à peu près impossible de faire tomber un régime avec des bombardements aériens. Donc il va falloir qu'il y ait autre chose qui se passe. Et M. Trump a été clair, et je pense que les Américains ne le veulent pas non plus, c'est qu'il y a des soldats américains en nombre important en Iran. Donc, on a ici une situation un peu plus complexe.
Puis avec les derniers développements puis les discours de Trump cette semaine, on peut en déduire que cette guerre-là n'est pas nécessairement sur le point de finir.
Ou on veut continuer, oui.
Ouais.
Tout à fait. Je pense que autant les Américains que les Israéliens vont tout faire pour détruire l'ensemble de l'appareil sécuritaire et militaire des gardiens de la Révolution. Et toutes les institutions liées au régime, là, les services de renseignement, la police, etc.
Mm-hmm.
Et donc, pour affaiblir le régime. Mais je pense que on en avait discuté un petit peu la dernière fois. Je pense que c'est peut-être plus clair maintenant qu'ils cherchent à avoir une révolte populaire en Iran, mais où il y aurait peut-être l'armée iranienne qui viendrait au secours de la population. Et combattrait les gardiens de la Révolution directement.
Il y a beaucoup de choses dans le conflit qui se sont passées au courant des dernières heures. Je lis beaucoup de nouvelles aussi européennes. Je trouve que ça donne un autre pouls. Quand vous dites Donald Trump n'a pas tassé de la main, bien au contraire, le fait d'aller envoyer des troupes terrestres dans ce conflit-là. Mark Carney, par alliance, a aussi évoqué qu'il y avait une possibilité, que c'était une hypothèse que l'armée canadienne s'y joigne. Est-ce qu'on sera de manière terrestre aussi impliqué là-dedans? Je sais que c'est dur, on n'a pas de boule de cristal, mais comment voyez les choses, vous, au niveau stratégique pour l'armée canadienne?
Je vois deux options pour les forces armées canadiennes qui ne sont pas mutuellement exclusives. Un, c'est d'aider à rapatrier des ressortissants en dehors du Moyen-Orient et du Liban, si c'est trop difficile pour les compagnies aériennes de le faire. Mais l'autre aspect, c'est de faire un peu comme la France, la Grande-Bretagne ont fait, c'est-à-dire qu'ils vont déployer des avions et des missiles, des systèmes antimissiles pour protéger les pays du coin. Donc ça, c'est possible, mais on n'a pas vraiment de batterie anti-aérienne au Canada. D'une part, d'autre part, nos avions sont très vieillissants. Donc, ça va être une contribution très limitée, ça, s'il y en a une.
OK, vous êtes en train de dire qu'on n'est peut-être pas armé autant qu'on le devrait. Je peux-tu me permettre de vous poser la question?
Oui, non, c'est tout à fait. Le Canada avait des systèmes des batteries antiaériennes qui ont été mis au rancard il y a de nombreuses années. Et on n'a rien acheté pour les remplacer, sauf des systèmes individuels pour la groupe brigade en Lettonie. Mais autrement, on n'a rien. Et puis, nos F-18 qu'on essaie désespérément de remplacer par un autre avion sont aussi vieillissants. Donc, ils sont quand même utiles, mais vu qu'ils sont vieillissants, on ne peut pas en envoyer beaucoup parce qu'il faut les remplacer rapidement, il faut faire la maintenance, etc. Donc, on ne peut pas avoir une flotte importante d'appareils dans la région.
Ah, c'est super. On sera d'un soutien émotionnel très fort, un peu. Là. C'est ça qu'on lit entre les lignes. On fait des blagues, mais c'est pas drôle du tout. Puis je sais
oui,
que...
oui. Ben, écoutez, certains peuvent appeler ça de la guerre par participation. Là. Ça va être un peu ce même genre. Ouais.
Mais justement, sur cette voie-là... En Europe, là, la France a décidé d'agir. Donc, on a des porte-avions qui ont été déployés. On a des bases qui ont été prêtées. L'Espagne a refusé le tout à Donald Trump. Ça leur donne un gros bout de bâton au niveau des tarifs, peut-être au niveau économique. Mais bon, la France, est-ce qu'elle peut être perçue comme étant co-belligérante là-dedans? Est-ce qu'on peut la voir comme étant, finalement, sans être une alliance formelle, un pays qui met un pied de trop dans ce conflit-là au Moyen-Orient? Comment on voit ça?
Pour l'instant, la politique française est, je dirais, prudente, c'est-à-dire que c'est vraiment juste défensif. Ils ont déployé des avions aux Émirats arabes unis parce qu'ils ont une base là-bas, mais ils ont bien annoncé que c'était aussi leur devoir de protéger les populations qui vivent aux alentours de la base. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont envoyé des chasseurs pour intercepter les drones, les missiles. Même chose à Chypre, mais là, c'est la solidarité avec l'Union européenne parce que Chypre est membre. Donc, ils ont déployé le porte-avions Charles de Gaulle et je pense une batterie de missiles anti-aériens sur le terrain où elle sera déployée dans les jours qui suivent. Mais c'est pas vraiment une participation active, c'est vraiment défendre les gens qui se font attaquer par l'Iran. Et donc, pour l'instant, c'est une politique assez prudente.
Ce qui est fascinant aussi, c'est de voir l'Ukraine lever la main et dire « Ouh, là, c'est mon moment d'entrer en jeu pour peut-être siéger aux côtés des grandes puissances mondiales. » Et donc, du côté de Volodymyr Zelensky, qui est à la tête du pays, puis vous savez qu'il est en guerre depuis au moins 4 ans maintenant. On vient de fêter le triste anniversaire, en fait, cette invasion russe au sein de son territoire. Il a levé la main pour dire « Nous, on veut venir aider les États-Unis à lutter contre les drones iranien que l'on connaît bien, mais on s'attend à avoir en contrepartie autre chose, donc siéger avec les grandes puissances, avoir un peu plus d'aide du côté de Donald Trump, qui était assez fermé à l'Ukraine dans les dernières années. C'est une haute politique en termes de discussion et en termes... C'est une haute voltige là, dans tout ça aussi, au niveau politique et discussion.
Oui, mais en fait, l'offre de M. Zelensky, le président ukrainien, et une offre sympathique, mais je pense que les Américains ont probablement déjà refusé poliment. Les Américains ont des moyens absolument extraordinaires là, à tous les niveaux, là, la guerre électronique, les avions, les missiles, antimissiles, etc. Donc, un soutien ukrainien serait vraiment plus symbolique. Donc, je vois pas ici un mouvement qui changerait bien les choses ici. Mais c'est une bonne guerre là, de M. Zelensky de faire cette offre de façon très publique.
Assurément opportuniste aussi pour sa condition et celle de ses citoyens. De quelle manière le Canada pourrait réessayer encore une fois de ramener les ressortissants qui sont pris sur les territoires? On voyait dans l'actualité des gens qui disaient leur adieu à leur famille, à leurs amis parce qu'ils se sentaient très persécutés, puis à l'aube de recevoir une bombe sur la tête. On va avoir un premier vol nolisé par le Canada demain. Est-ce qu'on va être capable de ramener tout le monde au pays?
Je pense que oui. Ça peut prendre un certain temps, mais dans la mesure où le nombre de missiles et de drones iraniens diminue, puis il y a eu une diminution assez importante là, dans les derniers jours, ça va permettre à l'aviation civile de prendre les airs sans moins de danger. Les Émirats arabes unis aussi avaient parlé d'ouvrir un corridor là, qui serait protégé par des chasseurs, en fait, qui permettraient aux avions de décoller. Dans le pire des cas, on peut toujours envoyer des avions militaires pour ramener les gens. Donc, mais je pense que pour l'instant, c'est l'option préférée, c'est de nolliser des vols de compagnies civiles.
Justement, là, on essaye de rapatrier des personnes. C'est samedi, le premier vol. Est-ce que la raison pourquoi ça a pris, entre guillemets, une semaine, là, c'est un peu moins, là, c'est 6 jours, c'est justement qu'on attendait que les corridors soient sécurisés?
Oui, non, tout à fait. Il fallait que les conditions dans l'espace aérien soient plus sécuritaires. Et donc, la diminution des attaques aériennes, iraniennes, est un facteur très, très important, mais aussi des choses très, très terre à terre. Il faut négocier, puis il faut faire des contrats. Et donc, ça aussi, ça peut prendre un peu de temps. Mais c'était surtout l'amélioration de la sécurité dans l'espace aérien. C'est pas complètement sécuritaire, mais c'est mieux que c'était.
Monsieur Ouellet, vous êtes professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes. La dernière question pour vous aujourd'hui, c'est pourquoi le mot « guerre » est un peu le vol de mort là, de la situation? Pourquoi le mot « guerre » est évité dans le dossier par pas mal tous les politiciens dans le monde?
Ben, du côté de M. Trump, c'est une question d'opinion publique. Là. Il ne veut pas dire que le pays est en guerre, mais plus dans une opération militaire, d'une part. D'autre part, seul le Congrès aux États-Unis a le droit de déclarer la guerre. Donc, il sauterait sa prérogative constitutionnelle. Puis finalement, la dernière raison, c'est que le mot « guerre » a un sens bien précis dans le droit international. Et ça, il veut pas s'empêtrer avec toutes ses obligations. Donc, ils appellent pas ça une guerre, même si, bon, dans les faits réels, c'est une guerre.
Merci beaucoup, M. Ouellet. Éric Ouellet, professeur titulaire, comme je disais, au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. On se reparle sous peu.
Merci. À la prochaine.
Bonne fin de journée. C'est tout un dossier. On va suivre ça encore une fois en fin de semaine. Pour vous, on va revenir lundi assurément avec une analyse sur qu'est-ce que nous donnera le week-end en termes d'informations. Mais tout le monde souhaite que ça ait une finalité assez rapide. Tout indique que ce ne sera pas le cas. Vous êtes dans On en jase, on revient dans un instant, puis on va aller jaser avec l'avocat Frédéric Bérard. Vous avez vu dans la nouvelle et vous avez réagi à l'auteur d'un double meurtre qui a été libéré du pénitencier après seulement 15 ans. Et ça, c'est une libération conditionnelle. Est-ce qu'encore on est devant une frasque du système ou encore on est justement dans la réinsertion et on doit continuer en ce sens, des proches des gens tués, soit son ex et sa fille à l'époque de moins de 15 ans, sont loin d'être en accord avec tout ça et n'ont pas été consultés. Sinon, dans deux dossiers d'intelligence artificielle, ben, les employés du Burger King au Québec seront surveillés par un genre de machine d'intelligence artificielle et ceux qui portent des lunettes Meta pour en faire des vidéos évacuées à leur plaisir de la chair, Mathias, se sont fait poigner, ils se sont fait visionner par un employé. Ça, est-ce que ça fait partie des droits personnels, des droits de la personne?
La question est excellente. Hein?
Mais on va aller poser tout ça à Frédéric Bérard. De l'autre côté de la pause, vous êtes dans On en jase à Boulevard 102.1. On en jase.